Vous écoutez, on lit pour vous.
L'embryon pour étudier les origines de l'humanité. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 4 mai 2025 dans la presse. Et si, pour retracer les origines de l'humanité, il suffisait d'étudier les embryons? C'est l'une des pistes avancées par la scientifique britannique Alice Roberts, qui est à Montréal ce dimanche pour parler du miracle de l'évolution et de l'humanité. Alice Roberts était enceinte de son deuxième enfant quand elle a eu une épiphanie. Les livres d'accompagnement de la grossesse ne parlent presque pas des deux premiers mois. Or, c'est le moment où il y a la transition la plus importante, dit-elle, du Royaume-Uni. On passe de quelques cellules à un embryon qu'on reconnaît comme humain. Cet instant lui a inspiré une réflexion philosophique qui l'a menée à élargir son expertise déjà importante de spécialiste de l'archéologie des ossements. Je me suis toujours intéressé à ce que les sépultures pouvaient nous dire de la société et des relations humaines du passé. On peut remonter des siècles, voire des millénaires, un véritable voyage dans le temps. Mais avec cette réflexion sur les liens entre l'embryologie et l'évolution, on revient des centaines de millions d'années, voire des milliards d'années avant notre ère. Le développement initial de l'embryon implique des processus chimiques qui nous relient à tous les organismes de la planète. On peut remonter à notre ancêtre commun présumé il y a plus de 4 milliards d'années. Nous avons, dans nos cellules, des processus biochimiques semblables à ceux des plantes. Ensuite, des mutations génétiques ont mené aux animaux, aux mammifères, aux singes. L'embryon, en passant de quelques cellules à un petit bébé, reproduit en quelque sorte toute l'évolution. Un voyage de 4 milliards d'années en 9 mois, en quelque sorte. Cette réalisation est au cœur d'une nouvelle discipline, la biologie évolutive du développement ou Evo-Devo. L'idée est d'étudier l'évolution en comparant l'anatomie et la physiologie de différentes espèces plutôt que les fossiles, dit la docteure Roberts. On retrouve nos lointains ancêtres en nous, c'est renversant. Dans sa conférence, la docteure Roberts ajoute une explication de l'évolution de l'univers. Humanisme. L'idée d'un lien entre l'humain et les plantes peut rappeler le panthéisme, soit l'idée que la nature est divine ou encore les spiritualités autochtones. Ou encore, on peut conclure que l'infiniment petit, la cellule, peut insuffler un sentiment mystique semblable à celui que certains ressentent en contemplant la voûte étoilée la nuit. C'est merveilleux de penser à l'origine de la conscience humaine, de s'émerveiller devant la pensée qui nous a permis de comprendre tout ça, dit la docteure Roberts. Elle fait un lien avec sa foi humaniste. Il s'agit d'une foi centrée sur l'être humain, qui a été popularisée par des églises protestantes britanniques et américaines, ayant conclu que Dieu n'existait pas nécessairement. Elle dérive de philosophie athée de la Révolution française et du sociologue Auguste Comte. L'humanisme n'est pas seulement une approche rationnelle, mais amène aussi l'idée que l'humain se réalise en interagissant avec le monde naturel, dit la scientifique de 51 ans. C'est une éthique non seulement humaine, mais qui concerne tout le vivant. De la médecine au végétariat. Fille d'un ingénieur et d'une enseignante, Alice Roberts a étudié la médecine. « J'ai été fascinée par l'anatomie comparée », dit la docteure Roberts. Sa thèse portait sur les pathologies de l'épaule chez l'humain et le singe et elle a enseigné la paléopathologie dans différentes universités, dirigeant entre 2009 et 2016 le département d'anatomie d'une école de médecine galloise. Elle a été recommandée, en 2001, comme experte des eaux pour une émission archéologique. Sa performance a intéressé la BBC qui, à partir de 2009, l'a régulièrement mise au centre de documentaires scientifiques sur l'évolution, les migrations humaines, les dinosaures, les Celtes et d'autres sujets archéologiques. Néandertalien. Quelle est la découverte qui l'a le plus marqué dans son travail? Personnellement, je n'ai rien découvert qui a fait la une de Nature. Mais j'ai été présente à plusieurs avancées. Celle qui m'a le plus soufflé est l'idée que les Néandertaliens et Homo sapiens ont formé des familles ensemble à plusieurs reprises au fil des millénaires, à différents endroits. C'est une rencontre qui était très difficile à imaginer. Comment Homo sapiens a-t-il compris l'altérité radicale de l'homme de Néandertal beaucoup moins évolué? Je pense qu'on ne le saura probablement jamais. Quoique, si on m'avait dit il y a 20 ans qu'on pourrait faire le génome de gens morts depuis des millénaires, j'aurais pensé que c'était une utopie. Cela dit, il ne faut pas idéaliser la rencontre entre Homo sapiens et Néandertal. Il se peut que ça se soit fait dans la violence. La crypte. La Dr. Roberts commence sa tournée canadienne à Montréal alors que son dernier livre, The Crypt, a été publié en Angleterre. Il s'agit d'une série d'ostéobiographies de gens qui sont morts depuis des centaines d'années, basées sur ce qu'on peut comprendre de leurs ossements. Le livre est la suite de Buried, qui portait sur les rites funéraires. Les ossements nous disent des choses précieuses à propos d'époques où il n'y avait pas d'écriture, ou alors où seulement les riches et les puissants écrivaient, dit Madame Roberts. Par exemple, on a appris que, dans l'Angleterre de l'âge du bronze, c'étaient les hommes et non les femmes qui changeaient de village quand ils se mariaient. Ça veut probablement dire que les femmes héritaient plutôt que les hommes. Les Romains, quand ils ont envahi l'Angleterre, ont justement évoqué de puissantes reines celtes, Boadicée et Cartimandua. Une autre conclusion de l'ostéobiographie est que le sucre a eu un effet bœuf sur les sociétés européennes. Au Moyen Âge, les gens avaient une bonne dentition, mais à partir du XVIe siècle, on commence à voir des dents complètement pourries au début de l'âge adulte. C'est à cause du sucre. Cancer et obésité. Que diront les ostéobiographes du futur de nos ossements? Ils vont constater l'augmentation vertigineuse de l'espérance de vie au XXe siècle, avec la médecine et la lutte contre les infections infantiles. Avant, il n'était pas rare que la moitié des enfants d'une femme n'atteigne pas l'âge adulte. Maintenant, ça arrive très peu souvent, même dans les pays en voie de développement. Corollaire de ce progrès, les ossements d'aujourd'hui révéleront aussi aux chercheurs du futur l'augmentation de la fréquence du cancer, maladie liée au vieillissement. Et en voyant la quantité de gens qui souffrent d'arthrose du genou, ils vont pouvoir déduire qu'il y avait beaucoup plus d'obésité qu'avant. En savoir plus, source Smithsonian. 3,5 milliards d'années. Âge de la plus vieille bactérie connue retrouvée en Australie. 500 millions d'années. Dernier ancêtre commun entre le poisson et l'humain. Entre 5 et 7 millions d'années. Dernier ancêtre commun de l'humain et du chimpanzé. 430 000 ans. Apparition de l'homme de Néandertal. 40 000 ans. Disparition de l'homme de Néandertal. Entre 350 000 et 260 000 ans, apparition d'Homo sapiens. C'était « L'embryon pour étudier les origines de l'humanité », un texte de Mathieu Perrault, paru le 4 mai 2025 dans La Presse.
Sources et analogies musicales du pape François, un texte de Christopher Hoss, paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir. Le pape François, décédé le lundi le 21 avril 2025, était un très fin mélomane, amateur de Mozart, de Beethoven et de Wagner, au goût affirmé. Lors d'une entrevue accordée le 19 août 2013 à la Maison Sainte-Marthe à Rome au père Antonio Spadaro, rédacteur en chef de la Civiltà Cattolica, François avait utilisé ses connaissances musicales en des analogies éclairantes sur ses valeurs. Parmi les œuvres qu'il plaçait dans son panthéon musical, François citait l'air et Incarnatus de la messe en ut de Mozart. « Il te conduit à Dieu », disait-il à son interlocuteur. Dans la foulée, le pape évoquait les passions de Bach. « L'air que je préfère est « Erbarme dich »,« Repens-toi », la plainte de Pierre dans la Passion selon saint Matthieu. C'est sublime. Il s'agit effectivement d'un air chanté après le triple reniement du Christ par Pierre. Ce dernier pleure amèrement, comme le chante l'évangéliste « Und er weinet bitterlich ». Klingsor et le néotomisme. Une fois passées ces références logiques, François poursuit, à un autre niveau, pas aussi intime, j'aime Wagner. Le meilleur à mon sens est le Ring des Nibelungen dans l'interprétation de Furt Wangler à la Scala en 1950 et le Parsifal dirigé par Knapert Busch en 1962. Un peu plus loin dans l'entretien, le pape se référera à Wagner, Parsifal et Tannhäuser pour mettre en garde contre les préjugés qui amènent aux égarements de l'esprit ou de la pensée. L'homme est à la recherche de lui-même. Évidemment, dans cette recherche, il peut aussi se tromper. L'Église a vécu des époques de génie, comme, par exemple, celle du thomisme, mais elle a vécu aussi des périodes de décadence de la pensée. Nous ne devons pas confondre le génie du thomisme avec le thomisme décadent. Pour ma part, j'ai malheureusement étudié la philosophie dans des manuels de thomisme décadent. Pour penser l'homme, l'Église devrait tendre au génie et non à la décadence. Le pape poursuivait ainsi. Quand une expression de la pensée n'est-elle pas valide? Quand la pensée perd de vue l'humain, quand elle en a peur ou se laisse égarer sur elle-même. La pensée trompée peut être représentée comme Tannhäuser, entouré d'une orgie de satyres et de bacchantes, ou comme Parsifal, au second acte de l'opéra de Wagner, au royaume de Klingsor. Pour développer et approfondir son enseignement, la pensée de l'Église doit retrouver son génie et comprendre toujours mieux comment l'homme s'appréhende aujourd'hui. Sur le plan théologie et philosophique, François développe ici une attaque cinglante contre le néo-thomisme ou néo-scolastique, une réappropriation née au tournant du XXe siècle de la philosophie de Thomas d'Aquin, thomisme, qui avait remis au goût de son époque, XIIIe siècle, la pensée d'Aristote. Ce néo-thomisme fut à l'origine, dans l'Église, notamment en France, en Allemagne et aux États-Unis, d'un puissant mouvement néo-conservateur bridant l'esprit critique. François compare donc ses promoteurs au maléfique magicien Klingsor qui cherche à pervertir Parsifal, l'innocent au cœur pur. Espérance. Une autre analogie du même entretien ne manque pas de surprendre. Je n'aime pas utiliser le mot « optimiste » parce qu'il décrit une attitude psychologique. Je préfère le mot « espérance que l'on trouve dans le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. L'espérance ne trompe pas, comme nous le lisons dans la lettre aux Romains. Pense plutôt à la première devinette du Turandot de Puccini. Si l'on prend le texte de la première devinette dans le livret d'Adami et Simoni, on lit « Dans la nuit sombre, vole un fantôme iridescent. Il s'élève et ouvre les ailes. Sur l'humanité noire, infinie. Chacun l'invoque et chacun l'implore. Mais le fantôme disparaît avec l'aurore. Pour renaître au cœur. Et chaque nuit il naît. Et chaque jour, il meurt. » La réponse de François à cela était « L'espérance chrétienne n'est pas un fantôme et elle ne trompe pas. C'est une vertu théologale et donc, finalement, un cadeau de Dieu qui ne peut pas se réduire à l'optimisme qui n'est qu'humain. Dieu ne déçoit pas l'espérance, car il ne peut se renier lui-même. Dieu est entièrement promesse. » Ce très fin esprit aimait évoquer ses interprètes favoris, Clara Askill, 1895-1960, la pianiste humaniste, si grande interprète de Mozart, et son chef prométhéen, l'Allemand Wilhelm Furtwängler, dont Angela Merkel lui apporta un jour l'intégralité des enregistrements. Dans les autres disciplines artistiques, il avait évoqué avec le père Spadaro, Dostoïevski, Hölderlin, Manzoni, le Caravage, Chagall, Fellini, avec son film préféré La Strada, ponctuant le tout de la phrase « J'aime les artistes tragiques, particulièrement les plus classiques. » Cervantes inspire à Carrasco une belle définition pour faire l'éloge de l'histoire de Don Quichotte. Les enfants l'ont entre les mains, les jeunes gens la lisent, les adultes la comprennent, les vieillards en font l'éloge. Cela me semble une bonne définition des classiques. C'était « Sources et analogies musicales du pape François », un texte de Christopher Huss, paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir.
Quand le cerveau perd des morceaux, un texte de l'agence Science Presse, paru le 3 avril 2025 dans l'Express.ca. De quel pourcentage de notre cerveau avons-nous besoin pour être fonctionnel? La question intrigue les médecins depuis longtemps, mais elle n'est pas facile à répondre, puisque ce n'est pas le genre de test auquel qui que ce soit voudrait se soumettre. D'emblée, il faut oublier la légende urbaine selon laquelle nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau. Cette affirmation est fausse. Tout dépendant des tâches accomplies dans une journée, lire un roman, faire un calcul mathématique, conduire une voiture, se rappeler un souvenir heureux, rêver, etc., toutes les régions du cerveau vont être tôt ou tard utilisées. Le cerveau se remet d'un accident. Il existe pourtant des gens qui ont été victimes d'un traumatisme crânien ou d'un accident vasculaire cérébral, AVC, ayant endommagé une partie de leur cerveau. À l'évidence, après une période d'adaptation, le cerveau a démontré qu'il était capable de poursuivre son travail. Or, après des décennies passées à étudier ces cas, sommes-nous en mesure de dire s'il y a un seuil minimal? La réponse, résume le magazine Life Science, après avoir interrogé plusieurs neurologues, est qu'il y a probablement une zone grise plutôt qu'une limite fixe. Plusieurs facteurs entrent en cause. La nature de l'accident, la région du cerveau affectée, l'âge de la personne, etc. Mais même une fois qu'on a dit ça, certains cas extrêmes ont surpris les experts eux-mêmes. Nouvelle connexion. Par exemple, EG, une femme à qui, selon une étude parue en 2022, il manquait la totalité du lobe temporal gauche, et il a fallu un scan du cerveau pour le découvrir. Situé près de l'oreille, ce lobe est censé être responsable de l'audition, de la mémoire et du langage, alors que la femme en question n'avait apparemment aucun problème. Les neurosciences ont établi depuis longtemps que le cerveau est suffisamment malléable, et c'est encore plus vrai chez les enfants, pour pouvoir créer de nouvelles connexions lorsque les circonstances l'imposent. C'est ce qui s'est passé avec cette femme, mais à une échelle qu'on n'avait pas observée jusque-là. Le neurochirurgien William Bingaman, de la clinique de Cleveland, émet l'hypothèse que le cerveau serait capable de continuer à s'ajuster s'il perdait jusqu'à la moitié de sa masse. Fonction de base. Mais il y a des parties du cerveau qui seraient plus essentielles que d'autres. Des structures situées dans les profondeurs de notre matière grise qui sont responsables des fonctions de base comme la respiration et le rythme cardiaque. C'était « Quand le cerveau perd des morceaux », un texte de l'agence Science Presse paru le 3 avril 2025 dans l'express.ca.
Élections fédérales. La défense de l'Arctique, une priorité des Nunavummiut. Un texte de Mathis Harvey, paru le 16 avril 2025 dans Espaces autochtones. Sécurité, défense et souveraineté sont les termes qui ressortent systématiquement des discussions concernant l'Arctique canadien ces derniers temps. Alors que les projecteurs sont braqués sur le nord du pays, des Nunavummiut craignent que ce dossier n'ait relégué au second plan des défis de longue date. L'Arctique canadien occupe une place importante dans l'espace public, comme en témoignent les visites de plusieurs candidats aux élections fédérales, des promesses de financement fédéral et les menaces du président américain Donald Trump d'annexer le Groenland et de faire du Canada le 51e État. La menace d'une incursion russe, chinoise ou américaine préoccupe des résidents du Nunavut. Citation « Il est difficile de ne pas avoir peur », fin de citation, dit l'avocate et militante groenlandaise Aju Peter, qui est établie à Iqaluit depuis une quarantaine d'années. Citation « Je prends les menaces d'invasion très au sérieux, car Donald Trump a déjà une base militaire au Groenland », affirme-t-elle. Ce serait facile pour lui de prendre le contrôle. Fin de citation. Aju Peter rappelle par ailleurs que la présence de l'armée américaine dans le Grand Nord n'est pas inconnue des Nunavummiut. En 1942, son armée de l'air a choisi d'installer une base militaire à Cogesi Inlet, où se situe aujourd'hui Apex, en périphérie d'Iqaluit. Elle a aussi construit une piste d'atterrissage et y a installé, des années plus tard, une unité du commandement des forces aériennes stratégiques américaines. Frobisher Bay est devenu le centre des travaux de construction de la ligne de radar avancée DEW. Pour d'autres Nunavummiut, comme l'agent administratif de la communauté de Clyde River, Billy Palook, la menace étrangère demeure abstraite, voire invisible. Citation « Je ne suis pas trop inquiet, dit-il. Je ne vois pas la Russie envahir le nord de sitôt. Pour l'instant, il y a plus de bateaux de croisière que de navires russes ici. » Fin de citation. Billy Palook croit que l'Arctique a longtemps été négligé et que le Canada a un retard à rattraper sur plusieurs fronts. Citation « En ce qui concerne les infrastructures, nous nous apparentons à un pays du tiers-monde en comparaison de la Russie, du Danemark et d'autres nations arctiques. » Fin de citation. Le temps d'une élection. Vincent Ningark, un résident de Kookaruk, regrette que la défense soit le principal sujet qui attire l'attention des partis politiques dans le Grand Nord durant cette campagne électorale. Citation « Pour moi, La souveraineté est une excuse pour détourner le regard de ce dont nous avons réellement besoin au Nunavut, en particulier dans nos petites communautés. » Fin de citation, soutient-il. Il croit que la réelle menace prend racine dans la crise du logement, qui touchait plus d'un Inuk sur deux au recensement de 2021 de Statistique Canada, l'insécurité alimentaire, la prévalence de la tuberculose, le taux élevé de suicide et le manque de ressources en santé mentale. Vincent Ningak soutient que de nombreuses promesses faites par le gouvernement fédéral dans le passé ont été brisées, notamment la création des collectivités qui a mené à la sédentarisation forcée des Inuits. Citation « On nous avait promis de meilleurs logements, une meilleure santé et une meilleure vie », souligne-t-il. « Nous avons du mal aujourd'hui à avoir de meilleurs logements dans nos communautés. » Fin de citation. D'autres Nunavumiut partagent le même point de vue. Citation « Je pense que le Canada se rend compte du retard qu'il a pris dans la réalisation de ses promesses. » Fin de citation, estime Ajoupiteur. Citation « Nous avons besoin de meilleurs services et de meilleures infrastructures. Nous avons le taux le plus grave d'insécurité alimentaire. » Nous manquons de logements, d'emplois et nous n'avons même pas d'université. Il y a tellement de travail à faire. » Fin de citation. Ajoupiteur dit espérer que le prochain gouvernement élu respectera ses promesses. Retombées multiples. Aux yeux du premier ministre du Nunavut, P.J. Akiagok, des collectivités en bonne santé sont le point de départ pour assurer la défense de l'Arctique. Citation. Étant donné le contexte mondial actuel et le rôle central que jouent les questions circumpolaires, les Canadiens et les Canadiennes d'un océan à l'autre demandent un investissement transformateur dans l'Arctique qui contribue à bâtir la nation afin de répondre aux besoins locaux, de créer des possibilités de développement économique et d'aborder la réconciliation et les intérêts géopolitiques du Canada. Fin de citation, a-t-il écrit le 31 mars, dans une lettre adressée aux principaux chefs des partis politiques. Le premier ministre, P.J. Akiagok, juge crucial d'investir dans des projets qui renforcent la défense dans l'Arctique, tout en répondant aux besoins des collectivités et en créant des occasions de développement économique. Il milite pour qu'Ottawa soutienne, entre autres, le projet de fibre optique Kivalliq to Baffin Connector Project et celui de la route et du port de Grace Bay dans la région de Kitikmeot. C'était Élection fédérale, la défense de l'Arctique, une priorité des Nunavumiut, un texte de Mathis Harvey paru le 16 avril 2025 dans Espaces autochtones.